Atelier Radio. Cet après-midi, on a Atelier Radio.
Une émission réalisée par l'OCCE, produite par Bran FM.
Le chantier Cause des enfants s'associe à Pili, par ici les idées, pour mettre en voie la question des droits de l'enfant à l'occasion des 31 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour ce numéro 6, nous vous invitons à découvrir un premier extrait d'une longue production des élèves de CM1 de l'école élémentaire de Levé, dans le Cher. Bonne écoute à tous.
Vous êtes sur Radio Droit de l'Enfant 18 avec la classe des CM1 de l'école élémentaire de Levé. Nous parlerons des droits de l'enfant en abordant certains articles de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous avons étudiés en classe. Nous les avons choisis en fonction de ce qui nous touchait le plus.
Autour de la table ce matin, nous avons Alban. Bonjour Alban. Nous avons Kélia.
Bonjour Kélia.
Nous avons Loan.
Bonjour Loan.
Florian.
Bonjour Florian.
Et Lilou.
Bonjour Lilou.
Pour le premier reportage, nous avons choisi de travailler sur l'article 7 de la CIDE qui dit que, dès sa naissance, l'enfant a droit à un nom et à une nationalité, qu'il a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. En effet, en étudiant le cas de certains enfants dans le monde, cela nous a choqué de découvrir que certains d'entre eux vivaient sans nom ni identité. Pour nous, c'est un endroit tellement naturel et évident.
Nous nous sommes donc intéressés à la façon où on obtenait une identité et un nom. Pour recueillir des réponses, nous avons interviewé Madame Isabelle Lebas, officier d'état civil à la mairie de Levé, qui a bien voulu venir dans la classe pour répondre à la question que nous lui avons préparé.
Voici l'échange avec Isabelle enregistré en octobre 2020 à l'école. Elle est venue chargée de divers registres pour illustrer ses propos.
Alors, je me présente, je suis Isabelle Lebas, je suis secrétaire de mairie et également adjointe administrative au niveau du secrétariat de la mairie de Levé. Je suis arrivée en juillet 2009 et je suis en charge principalement de l'état civil, et c'est pourquoi j'ai reçu l'invitation pour aujourd'hui. Je suis ici aussi en tant qu'officier d'état civil par délégation, car il faut savoir que l'officier d'état civil, en fin de compte, sur une commune, est en premier lieu l'élu. Quel est pour vous l'acte d'état civil le plus, entre guillemets, je dirais, le plus important ? Les naissances. Hein. Donc l'acte de naissance, entre guillemets, ça va être celui qui va être le plus complet et qui va retracer l'intégralité des actions que vous allez avoir tout au long de votre vie. L'officier d'état civil premier au niveau de la commune, c'est donc le maire et ses adjoints. Un adjoint administratif peut officier en tant qu'officier d'état civil car il a reçu la délégation de monsieur le maire. Dans les registres des naissances, il faut mettre le nom de l'enfant qui va être choisi commun, je veux dire, avec les deux parents. Il va y avoir également le choix de tous les prénoms, parce que vous savez qu'on n'a pas qu'un seul prénom, enfin, on peut en avoir qu'un, mais on peut en avoir aussi plusieurs. Il faut également les noms et tous les prénoms des parents, leur adresse aussi, parce que ça peut être aussi des adresses différentes. Donc là aussi, il faut que l'adresse des parents soit indiquée. Le nom du déclarant, donc le nom du déclarant pour la naissance, ça peut être effectivement la sage-femme. Un des deux parents, c'est souvent le père parce que la maman est auprès de son enfant. Et donc, il faut également la date et l'heure à laquelle la déclaration a été faite, c'est-à-dire à la date à laquelle l'acte a été établi. C'est vrai que sans papier, comment on peut dire que cet enfant appartient à tel? L'autorité parentale est très importante. C'est pour ça que le fait de la reconnaissance, on a parlé de la reconnaissance anticipée tout à l'heure, lorsque les gens viennent faire effectivement une reconnaissance anticipée, on leur fait lire des articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des parents. Donc, article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité, l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Article 372-2. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Un acte de naissance, ça a des répercussions effectivement des parents sur l'enfant, mais réciproquement aussi, de l'enfant sur ses parents. Ça a été un réel plaisir pour moi de... Alors déjà vos questions, parce qu'elles ont été multiples et diverses. J'ai été très contente aussi de pouvoir préparer plus vos attentes. Je dirais que la continuité où effectivement on va pouvoir aller se revoir, c'est quand, lorsque vous aurez atteint l'âge de 16 ans. Votre première démarche citoyenne, ça sera de venir en mairie, seule, avec le livret de famille que vous auront confié vos parents, un justificatif de domicile, et venir faire le recensement militaire. À 16 ans, chaque enfant doit venir faire se recenser en mairie, venir faire après votre journée d'intégration. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous dis à bientôt.
Merci Isabelle de nous avoir accompagnés dans notre projet radio. Grâce à vous, nous avons eu de la chance de voir de vrais registres, très anciens pour certains. De plus, vous avez été très disponible et la fonction d'officier d'état civil n'a plus de secret pour nous aujourd'hui.
Votre intervention nous a fait comprendre qu'il était important d'avoir un nom et une identité et que nous avons de la chance en France de voir que nos droits sont respectés.
Après avoir abordé l'article 7 de la CIDE sur le droit à une identité, nous allons nous pencher sur le thème suivant, les droits des enfants de parents séparés.
Autour de la table ce matin, nous avons Nolan.
Bonjour Nolan.
Marius.
Bonjour Marius.
Yanis.
Bonjour Yanis.
Guilhem.
Bonjour Guilhem.
Et Noam.
Bonjour Noam.
Nous avons choisi de travailler sur l'article 9 qui affirme que l'enfant a le droit de vivre avec ses parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Il a le droit de donner son avis et de participer à toute décision concernant une éventuelle séparation de ses parents. Ses parents ont le même droit. S'il est séparé de l'un de ses parents ou des deux, il a le droit de le ou les voir régulièrement, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Nous avons choisi d'approfondir ces questions parce que plusieurs d'entre nous dans la classe sont dans ce cas et que c'est un sujet qui nous touche directement.
Nous avons décidé de faire appel à une avocate pour trouver des réponses professionnelles aux questions que nous nous posions. Nous avons rédigé et envoyé nos questions à Pauline Morel, une jeune avocate dynamique de Bourges, qui a accepté de nous répondre en visioconférence pendant la classe.
Voilà les réponses claires et détaillées de Pauline dans l'enregistrement qui suit.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Oui, alors donc je m'appelle Pauline Morel, je suis avocate à Bourges depuis à peu près 7 ans. J'exerce un peu dans tous les domaines du droit et notamment donc le domaine qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les droits des enfants et le droit de la famille.
Quel est votre rôle dans le choix de garde des enfants en cas de séparation ?
Mon rôle dans le choix de garde, il va dépendre en fait de qui je vais représenter, de qui je vais assister et conseiller, puisque l'avocat, en quelques mots, son rôle, c'est d'aider en fait une personne ou son client à obtenir ce qu'il souhaite devant un juge, par exemple. Donc dans le choix de garde des enfants, par exemple, si c'est l'enfant que j'assiste Ben, mon rôle, ça va être de porter la parole de l'enfant devant le juge, peut-être pour qu'il puisse faire passer un message à ses parents ou à l'un de ses parents. Si c'est, par exemple, le papa ou la maman que je vais assister, mon rôle, ben, déjà, ça va être de le conseiller pour pouvoir lui dire comment le juge peut statuer. Par exemple, dans quel sens le juge va prendre la décision. Si ce qu'il demande, c'est conforme à l'intérêt de son enfant, par exemple, il y a des parents parfois qui sont un petit peu perdus. Donc notre rôle, c'est de les conseiller au mieux pour demander bien ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et puis, ça peut être aussi donc, de représenter donc, la personne, de l'assister devant le juge, c'est-à-dire de réussir à demander en fait ce qu'elle veut, l'aider à obtenir gain de cause devant le juge par rapport au choix de garde. Donc on peut soit avoir des parents qui veulent une garde chez eux, c'est-à-dire que la résidence de l'enfant elle soit chez l'un des parents et l'autre il voit l'enfant bah, par exemple le week-end, les vacances scolaires, voilà pendant le temps libre de l'enfant et du parent. Et il y a aussi des parents qui veulent une résidence alternée, c'est-à-dire que les enfants vont une semaine chez la maman, une semaine chez le papa, et comme ça, en alternance, en fait, l'enfant, il peut voir les deux parents autant qu'il le souhaite, et les deux parents peuvent voir leur enfant autant qu'ils le souhaitent aussi.
Qui prend les décisions sur la répartition des jours de garde?
La personne donc, qui prend les décisions, ça va dépendre en fait de s'il y a un accord, on va dire, ou pas. C'est les parents hein, qui ont l'autorité parentale, donc c'est les parents qui prennent les décisions en ce qui concerne la vie de leur enfant. Donc si les parents sont d'accord, c'est les parents qui prennent la décision pour leur enfant en fait. Alors bien sûr, les parents, ça ne les empêche pas d'en parler à leur enfant et d'avoir leur avis, mais c'est les parents qui prennent la décision. S'il n'y a pas d'accord entre les parents peuvent se mettre d'accord avec un avocat sans passer devant le juge, puisque l'avocat peut avoir un rôle de médiateur entre les parents. Et si vraiment il n'y a toujours pas d'accord, bien c'est le juge aux affaires familiales qui prend la décision sur le mode de garde des enfants et également la répartition des jours de garde.
Les enfants ont-ils le droit de donner leur avis?
Alors oui, les enfants ont le droit de donner leur avis. Alors, tout va dépendre de leur âge, bien sûr, puisque le juge va entendre les enfants qu'il estime être en âge de discernement. Alors le discernement, ça veut dire que on a la capacité de comprendre ce qui se passe, on va dire, dans la situation des parents. Donc généralement, on estime que c'est entre 7, 8 ans. Ça va dépendre, bien sûr, de la maturité de l'enfant. S'il comprend ce qui se passe, s'il n'y a pas de règle. C'est le juge hein, qui détermine si un enfant est en âge d'être entendu. Mais si l'enfant est en âge d'être entendu, il peut donner son avis. Il est en fait convoqué devant le juge. En fait, il peut donner son sentiment, donner son avis sur ce qu'il voudrait pour la relation avec ses parents. L'important quand même, c'est que les enfants puissent être entendus et avoir le sentiment aussi d'être entendus. Donc c'est pour ça aussi qu'à Bourges, sauf cas d'extrême urgence ou sauf cas où on ne peut pas faire autrement, l'enfant il est toujours entendu avant à passer devant le juge.
Arrive-t-il qu'un enfant ne puisse plus voir l'un de ses parents?
Ça peut arriver, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, soit bien il y a l'un des parents qui, on va dire, se désintéresse un petit peu de l'enfant. On ne va pas imposer à l'enfant de voir ce parent, ni inversement, on ne va pas imposer aux parents, s'il ne fait pas de demande, bien sûr, de voir son enfant. Donc ça peut arriver dans un cadre comme ça, et dans l'intérêt de l'enfant, toujours de maintenir une relation, même si la relation elle est un peu tendue ou un peu difficile.
Peut-il y avoir des décisions différentes pour une même fratrie?
La loi, le code civil prévoit que non. Enfin, l'idée, c'est de permettre d'avoir la même décision qui concerne la fratrie. C'est-à-dire que, généralement, d'ailleurs, nous, c'est quelque chose que l'on va mettre en avant pour que la fratrie ne soit pas séparée. Si le papa demande la résidence et la maman demande la résidence, on va faire en sorte que les enfants soient dans la même famille, on va dire, enfin, en tout cas chez le même parent. Ça peut être le cas aussi pour les familles recomposées, c'est-à-dire quand on a des frères et des sœurs avec la maman ou papa a refait sa vie. Donc là, c'est pareil. Mais aussi du juge, c'est que les enfants puissent voir leurs frères et leurs sœurs et que donc la fratrie ne soit pas séparée.
Très bien. Bah, écoute, merci Pauline en tout cas, parce que tu nous as appris plein de choses matin.
Bonne idée.
Au revoir et merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup.
Merci Pauline d'avoir répondu à nos questions et pour le temps que vous nous avez accordé. Grâce à vous, nous avons compris quels sont nos droits en tant qu'enfants de parents séparés.
Ce qui est bien, c'est que les enfants soient réellement écoutés et que nous avons notre place dans ces questions de séparation. Cela est rassurant de voir que notre parole compte et que vous soyez là. Vous, les avocats, pour que notre intérêt reste au centre des préoccupations.
Nous nous sentons maintenant plus à l'aise et rassurés grâce à ces informations et votre gentillesse.
Encore merci Pauline. Il est temps de passer au thème suivant avec le prochain groupe de journalistes en herbe de l'école de Levée.
Bonjour, voici la suite de l'émission de l'école élémentaire « Levez-toi sur les droits de l'enfant ».
Pour cette nouvelle chronique, nous avons autour de cette table Sam.
Bonjour Sam.
Jade.
Bonjour Jade.
Thomas.
Bonjour Thomas.
Tom.
Bonjour Tom.
Axel.
Bonjour Axel.
Et Raphaël.
Bonjour Raphaël.
Nous allons maintenant aborder le thème de la protection des enfants contre la violence. C'est un sujet qui nous a beaucoup émus car il évoque la situation d'enfants qui souffrent et qui se trouvent en danger.
Tous les jours, dans toutes les écoles, nous passons devant des affiches du 119. Allô, enfants sans danger. Sans nous, nous en préoccuperons vraiment car nous ne sommes pas en situation de danger. Cette affiche fait partie de notre décor, mais aujourd'hui, nous avons voulu savoir ce qu'il se passait quand on appelle ce numéro d'urgence. Qui pouvait y faire à cet appel ? Et comment une aide pouvait être apportée aux enfants qui en avaient besoin?
Nous souhaitions poser directement nos questions à quelqu'un travaillant au 119, mais une responsable nous a répondu par mail qu'il n'avait pas de temps à nous consacrer. Cette personne nous a renvoyé sur le site du 119 pour obtenir des informations. Cette réponse nous a paru froide et décevante, mais nous avons compris qu'il était plus important pour eux de venir en aide aux enfants en danger que de répondre à notre classe.
Sur le site, nous avons appris que le 119 était géré par le SNATED, c'est-à-dire le Service National de l'Accueil Téléphonique de l'Enfance en Danger. C'est un numéro accessible 24 heures sur 24, gratuit, qui ne laisse aucune trace dans les relevés téléphoniques ou dans les listes des appels passés. Depuis quand le SNATED existe-t-il ?
En juillet 1989, les parlementaires ont voté une loi relative à la prévention des mauvais traitements envers les mineurs et à la protection de l'enfance. Cette loi a donné le jour au Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée, appelé Allô Enfance Maltraitée.
Depuis quand peut-on appeler le 119 ?
Depuis mars 1997, le service a un numéro d'appel simplifié à 3 chiffres. Le 119, l'affichage de ce numéro est obligatoire dans tous les lieux recevant des mineurs comme nous à l'école. Depuis 2003, le 119 est devenu un numéro d'urgence comme les numéros 10, 17, 18 et 15. Par exemple, ce qui nous donne l'obligation à tous les opérateurs téléphoniques de rendre accessible le numéro gratuitement, y compris depuis les téléphones mobiles.
Quelles sont les missions du 119 ?
Il y en a deux. Tout d'abord, une mission de prévention et de protection. En accueillant les appels d'enfants en danger ou en risque de l'être, mais aussi de toute personne confrontée à ce type de situation.
Ensuite, ils ont une mission de transmission en transmettant les informations préoccupantes concernant ces enfants aux services départementaux compétents. Ce service a été conçu afin de permettre à tout citoyen d'évoquer une situation de mauvais traitement à enfants auprès de professionnels de l'enfance.
Quand un enfant compose le 119, qui lui répond au téléphone ?
Ce sont les agents du pré-accueil, une équipe de 10 professionnels de la téléphonie qui accueille les appelants. On vérifie que leur appel concerne bien les missions du 119 et on oriente les appels vers un plateau d'écoute.
Qu'est-ce que c'est le plateau d'écoute ?
C'est là que se trouvent les écoutants, une équipe pluridisciplinaire composée de 45 professionnels, psychologues, juristes, travailleurs sociaux. Ils sont tous formés à la relation d'aide, ont une connaissance des pathologies liées à la maltraitance des enfants. Ils connaissent les fonctionnements institutionnels, administratifs et judiciaires, et les services sociaux.
Leur mission première est d'être à l'écoute des personnes qui appellent et de comprendre les situations. Leur activité consiste à apporter une aide immédiate aux personnes par une écoute ponctuelle ou une orientation vers des structures locales ou encore répondre à une demande d'information.
Quels sont les dangers évoqués dans les appels traités par les écoutants ?
On trouve la violence psychologique qui sont les plus nombreuses avec 28% des appels. Les négligences envers l'enfant, les violences physiques, la violence au sein du couple, les conditions d'éducation compromises, les comportements du mineur qui se mettant en danger, la violence sexuelle. Plusieurs dangers peuvent être associés dans une même situation.
Combien d'appels reçoit le SNATED ?
Près de 256 000 appels ont été reçus en 2019, soit 700 par jour en moyenne.
Qui appelle le 119 ?
Dans près de 17% des cas, il s'agit d'un mineur dont 13% qui appellent pour expliquer leur propre situation.
Combien d'enfants sont concernés par an ?
Pour vous donner une idée du nombre, environ 49 500 enfants ont été concernés par les appels traités en 2019, dont plus de 35 000 étaient en danger ou en risque de l'être.
Qui sont les auteurs présumés à l'origine des dangers ?
Plus de 9 auteurs présumés sur 10 appartiennent à la famille proche, père, mère, beaux-parents, membres de la fratrie, grands-parents.
Si vous souhaitez obtenir la documentation sur le 119, rendez-vous sur le site allo119.gouv.fr à partir d'un ordinateur.
Le confinement a-t-il eu des conséquences pour les enfants ?
Oui, le nombre d'informations préoccupantes adressées par le 119 aux services départementaux de protection de l'enfance a augmenté de 30%. La semaine du 22 au 28 avril 2020 a été la pire.
Parmi les auteurs très marquants, on peut constater un accroissement des situations nécessitant une intervention immédiate des services de première urgence. Le recours direct aux services de police et gendarmerie ou au SAMU par les écoutants du 119 a plus que doublé par rapport à la période équivalente en 2019.
Qui sont les enfants concernés ?
Les mineurs décrits comme en danger ou en risque de l'être sont à part égale, des filles et des garçons. L'âge moyen des enfants concernés par les appels est de 9 ans.
Durant la période de confinement, un peu plus de violences psychologiques ont été signalées, ce qui est sans doute à mettre en relation avec les appels de voisins signalant des cris et violences verbales d'adultes et des pleurs d'enfants. Par contre, l'isolement dû au confinement a fait diminuer la possibilité d'observer des négligences et des violences sexuelles au sein des foyers.
Le site internet du 119 a connu une hausse inédite de la fréquentation. Pendant la période du confinement du 18 mars 2020 au 10 mai 2020, il y a eu une hausse très importante de nombreuses visites, mais également de pages vues du site.
Chers auditeurs, vous avez comme nous constaté que le SNATED a un rôle très important pour aider les enfants en danger. Nous avons pris conscience que la situation s'est beaucoup dégradée pour de nombreux enfants pendant le confinement.
Nous espérons qu'en parlant aujourd'hui du 119 sur cette radio, d'autres enfants en danger prendront connaissance de cette aide et de cette écoute apportée par les professionnels, ou que grâce à notre reportage,
Ceux qui hésitaient ou avaient peur de demander de l'aide au 119 sauront qu'ils peuvent le faire en toute sécurité et confiance.
Nous vous remercions pour votre attention.
Pili.
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 Pili. Pili. Pili. Cause des enfants.
Par ici les idées.
C'est l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant.
La convention a 31 ans.
Par ici les idées.
Pili. Cause des enfants.
Ensemble.